Une création.
Blast.
Donc il faut juste se dire combien de personnes nous voulons, une sorte de immigration choisie plutôt que de le subir. Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
C'est pas en régularisant moins qu'il y aura moins de travailleurs sans papier.
Il faut qu'on ait les mêmes droits pour que les salaires puissent augmenter et les conditions de travail puissent s'améliorer.
Su pasaporte,
le hace tasa. Este es un punto, le mea la data, su familia está
pensando. Ici, c'est la Ligue des droits de l'homme de Paris 16, c'est la permanence pour les sans-papiers. Et ceux qui en ont déjà, mais qui ont des difficultés pour les renouveler, on les aide à faire leur première demande de titre de séjour, à faire le renouvellement, à faire leur demande d'aide médicale et toutes les autres demandes administratives éventuelles.
Je suis Nelly, je suis présidente de la Ligue des droits de l'homme de Paris 16e. En 2006, j'allais à peu près à la préfecture une fois par semaine et on ressortait avec un titre de séjour pour quelqu'un. Et là, depuis le début de l'année, j'y suis allée 4 fois et on n'a toujours pas les titres de séjour en question.
Yo quiero que tú analices, vamos, esto es lo de Frick, que mire la fecha de los acuerdos, por su altura, nombre mío.
En 2006, on y allait tous les jours avec des groupes de personnes sans papier. Et après, bon, ça s'est tassé un peu, parce que Sarkozy avait dit on va régulariser tant de sans papier, il a arrêté du jour au lendemain. Mais après, ça a continué sur d'autres critères à partir de la circulaire Valls en 2012. La circulaire Valls est arrivée à la suite de grèves nombreuses et importantes de sans papier, par exemple les chantiers du tramway. Et dans les restaurants. Sous cette pression-là, Valls a sorti une circulaire qui disait que les personnes pouvaient être régularisées soit par la scolarité des enfants, si les enfants étaient scolarisés depuis 3 ans et les parents en France depuis 5 ans, soit par le travail, si les travailleurs avaient 24 mois de fiche de paye et 3 ans de présence, ou 8 mois de fiche de paye et 5 ans de présence. Sauf que beaucoup de patrons avaient peur de déclarer leurs employés, donc il fallait qu'on les appelle, on leur parle longuement au téléphone, on leur explique que c'était pas dangereux. Voilà, tout ça, ça demandait beaucoup de travail, de préparation. Au moment de l'arrivée du Covid, les préfectures ont été fermées, comme toutes les administrations, et pratiquement elles n'ont jamais rouvert. Un exemple, quelqu'un avait son dossier complet, il allait faire la queue dans les centres de réception des étrangers à 5h30 du matin, on l'accompagnait, nous, et on sortait à 10h avec un rendez-vous pour la préfecture à la cité. Et 3 mois après, on allait au rendez-vous à la cité, on avait un récépissé, et 3 mois après, on avait un titre de séjour. Là, ça s'est arrêté et les centres de réception des étrangers étaient fermés, tout était fermé. Ils ont réouvert en 2022 pour liquider un peu tout ce qui était un peu en attente. Après, ils n'ont plus reçu personne en personne. Bah, disons que depuis 2023, oui, on n'a plus rien, quoi. Vraiment plus rien, il faut tout envoyer par Internet. 4 mois après, on reçoit un rendez-vous qui a lieu 14-15 mois après. Et 14-15 mois après, on va au rendez-vous et on attend pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend des préfectures au niveau de l'Île-de-France. Voilà. C'était un bon moyen d'avoir de moins en moins de personnes régularisées. Puisque déjà, il faut arriver à avoir un rendez-vous. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas de rendez-vous sur Internet. Même les gens qui veulent faire des renouvellements dans certaines préfectures, ils n'arrivent pas à faire leur renouvellement. En plus, il faut que les gens soient en capacité d'avoir accès à un ordinateur, de pouvoir remplir des documents sur ordinateur et de pouvoir scanner et joindre des documents. La principale difficulté pour être régularisé aujourd'hui, c'est d'avoir un rendez-vous. C'est plus difficile d'avoir un rendez-vous que d'obtenir des fiches de paye de son patron, à l'heure actuelle.
Je m'appelle Singh, je viens de Inde. Je suis venu en France en 2015 pour le travail. J'ai trouvé un petit boulot dans un restaurant. C'est un peu 20-30 euros par jour. J'ai pas aimé, après j'ai travaillé dans un bâtiment. C'est un métier vraiment dur. Si ça se passe quelque chose, c'est pas qui est responsable, c'est nous-mêmes. Plus, et payer beaucoup moins, 50 euros par jour, mais travailler comme un con. Tu fatigues, tu rentres à la maison, tu n'as même pas envie de manger. À la fin, j'ai laissé le métier parce que comme tu n'as pas de papier, les gens t'en profitent dans le chantier. Même parce que tu travailles au noir, dans la santé, c'est normal. Tu n'as pas un contrat de travail, tu n'as pas quelque chose à déclarer. Même à la fin des mois, comme tu demandes ton salaire, il a dit, ah, tu vas recevoir peut-être dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après de ça, donc, tu attends. À la fin, beaucoup de personnes refusent de donner ton salaire parce qu'il a dit, ah, c'est un métier qui n'est pas bon. Ils ont refusé de donner l'échec. Donc, comme tu commences à petit à petit, réfléchir des choses avec la papier, tu veux dire oui, j'ai envie de faire les papiers peut-être. Donc j'ai cherché un travail, j'ai trouvé un travail dans un magasin et tout. Aucun mot de français, je parle même pas. Et tu connais pas de nom, tu sais quoi les noms, comment ça s'appelle. Chaque fois je trompe, quelqu'un te demande quelque chose, tu ramènes autre chose. C'est trop dur, mais grâce à mon patron, il m'a aidé beaucoup. J'ai pris à foncer, j'ai commencé à travailler à petit. Après, j'ai commencé à faire du travail bien, le salaire est bien et tout. J'ai laissé l'argent à côté. J'ai pensé que je ferais la vie correcte avec comme les autres. J'ai ouvert un petit boutique, quelque chose. À la fin, j'ai parti à la banque pour demander. Il m'a demandé à carte de séjour. Je n'ai déjà pas. Il a dit, ah, on donne pas lui crédit comme ça, mais si tu n'as pas titre de séjour, quelque chose. On voit, j'ai refusé des pays, j'ai tout, j'ai contrat de travail, plus que 5 ans. Mais à la fin, il a refusé, juste il manque un titre de séjour. J'ai déposé le dossier 2020-21. J'ai déposé 2 fois. Quand tu déposes ton dossier dans la préfecture, tu attends les réponses depuis 12 ans, 3 ans. Tu penses par rapport à ça. Tu bloques. Toujours, il n'y a pas de réponse. Même tu appelles, même tu envoies les messages, même tu écris un email, c'est la merde. Mais tu peux pas avancer. Même si tu as un projet dans ta tête pour avancer ta vie, mais tu peux rien faire. Tu vois même pas ta famille, tu vois même pas ta parents. Comme tu penses à ça, ça fait mal à la tête. Toutes les personnes ont le droit de voir sa famille. Ils ne demandent rien à l'État, juste ils vont voir un titre de séjour pour faire voyager, pour savoir la famille, et c'est tout. On ne demande rien, on voit. Nous, on travaille, on paye son loyer, on vit. On ne demande pas quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le système de France. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune idée comment ça marche. Comme je recevais des papiers, je faisais un magasin de vélos, tranquille, dans la campagne. En fait, j'aime bien la campagne. En fait, j'aime bien faire du vélo. J'ai 3 vélos déjà. Les VTT, dans la montagne, parfois je vole dans la forêt. Tu es tout seul, tu fais ta vie comme tu veux. C'est ça.
Je m'appelle Emeline Zoukbédé et actuellement je suis chercheuse postdoctorale à l'Institut Convergence Migration. À partir de 2010 et notamment 2012 avec la circulaire Valls, pour être régularisé par le travail, il faut avoir des bulletins de salaire et donc être en emploi déclaré. Soit avec l'achat d'une fausse carte de séjour à son nom, soit l'emprunt contre des fois rémunération de la carte de séjour de quelqu'un, d'un proche, qui est donc lui régularisé, pour travailler avec. Et donc, il y a une sorte d'hypocrisie en se disant, bon, bah, on sait très bien que de toute façon, on ferme un peu les yeux dessus, parce que sinon, il n'y aurait pas la possibilité de régulariser les personnes. Enfin, en tout cas, pas à travers des bulletins de salaire. Pour l'instant, la circulaire Valls, elle est encore en vigueur. Et donc, elle énonce des critères, et notamment des temps de présence à avoir, 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Cette ancienneté de la résidence en France, en fait, elle est prouvée par différents documents. Selon que vous arrivez à justifier 3 ans, 5 ans ou 7 ans de preuve d'ancienneté de la résidence en France par ces preuves de présence, il y a un certain nombre de bulletins de salaire déclarés à fournir. Et ces bulletins doivent être au moins égaux à un mi-temps. Côté de ça, vous avez aussi une promesse d'embauche à fournir, comme quoi un employeur vous embauchera la durée de votre titre de séjour, quand il sera délivré, donc pour une durée d'1 an. Le problème, c'est que comme c'est une circulaire d'application qui propose des orientations, et donc il y a toujours possibilité de durcir les critères d'appréciation. Toujours moyen qu'en fonction d'un contexte politique ou économique, on exige un peu plus de pièces, etc. Et là, dans la nouvelle loi, il était dit qu'il fallait aussi juger de l'intégration de la personne à la société française, donc une insertion sociale dans la vie de la cité, dans la vie de la ville, mais aussi que cette personne soit en accord avec les valeurs de la République. Comment juger que quelqu'un est inséré socialement? Par quels critères? Comment juger que quelqu'un est en accord avec les valeurs de la République? Est-ce que c'est quoi? C'est être une famille mariée avec 2 enfants, 1 enfant de chaque sexe? Est-ce que c'est avoir un appartement et des chambres pour des enfants?
Donc la politique migratoire doit être simple. Est-ce que les gens parlent notre langue? Non, pas encore. 25% des étrangers qui ont un titre de séjour ne parlent pas français. Ce que je propose dans le projet de loi, c'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils le réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour et ils s'en vont. Ça, c'est une révolution énorme. Énorme.
Je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Nora au sujet de ces fameux tests de valeurs républicaines. Alors on a pris quelques exemples de questions, je me permets de vous les poser. De quand date la devise de la France, liberté, égalité, fraternité?
On ne va pas jouer à ce jeu-là.
C'est intéressant. On pose ça à des étrangers. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que des Français connaissent la réponse à ces questions?
Moi, je ne connais pas
cette Nora ne sait pas.
Je ne connais pas cette réponse.
Non, justement.
Quelques temps après?
Non. Elle s'inspire de la Révolution, mais elle n'est inscrite dans la Constitution française que depuis 1848.
Oui, tout à fait.
Personne sur ce plateau ne réussit le test.
Personne n'a réussi le test sur la première question.
Ça, c'est une révolution énorme.
Sachant que l'immigration irrégulière, ça peut concerner n'importe qui à n'importe quel moment. Quelqu'un qui perd un titre de séjour parce qu'il n'a pas pu renouveler son titre de séjour à la préfecture, il est irrégulier. Aussi bien un étudiant états-unien, argentin, qu'une psychologue russe, etc. Enfin, je pense qu'il faut aussi remettre un peu des visages et un peu différentes formes à ce qu'est l'immigration irrégulière. Il y a ceux qui arrivent sur le territoire français avec un visa et visa touriste Schengen et qui vont rester à l'expiration du visa. Il y a les personnes qui vont perdre leur titre de séjour parce que soit elles peuvent pas être renouvelées, soit les échéances, en tout cas le rendez-vous est beaucoup trop long à la préfecture et qu'elles perdent leur titre de séjour. Il y a aussi les étudiants qui peuvent pas se réinscrire. C'est très compliqué de changer de statut, d'être étudiant et de passer à travailleur parce qu'il faut que l'emploi soit en adéquation avec le diplôme. Or, on sait qu'en fait, pour trouver un travail avec son diplôme, selon les filières, on met bien 9 mois, enfin, voire plus. Donc voilà, et tout ça, ça produit l'immigration irrégulière. Ensuite, il y a un peu cette opposition migrants économiques, migrants familiaux, alors qu'en fait, comme si les gens qui venaient rejoindre leur famille n'iraient jamais bosser. Ceux qui bossent n'ont pas de famille ou ne fonderaient pas de famille ici ou entre deux pays, en fait. Et donc, en fait, voilà, cette immigration, elle est riche, elle est plurielle, elle a plusieurs visages. Après, voilà. Nos politiques et nos médias veulent en donner un seul, avec cette idée qu'ils viennent piller, qu'ils profitent du système, ce qui est complètement faux. Le système profite d'eux. Clairement, les entreprises profitent. Mais en fait, ça permet aussi de développer, moi c'est ce qu'avait dit un directeur de la police générale, en fait, ça permet aussi d'aider les petits patrons dans la restauration, par exemple, qui ne peuvent pas payer les charges patronales qui sont beaucoup trop lourdes, et donc ils prennent un travailleur à temps plein et le déclarent à temps partiel.
L'exception, c'est les patrons qui acceptent de déclarer. Étant donné la quantité de charges qu'on paye en France, ils veulent pas. Ils sont tranquilles. Hein. On a eu combien d'avocats, de médecins, de gens de très haut niveau. On les appelle et tout, ils disent non, je ne veux pas déclarer. Et ils sont tranquilles, ils n'ont même pas l'impression qu'ils sont en train de faire quelque chose d'illégal. Non, mais ils n'ont pas d'inspection. Les patrons condamnés pour avoir embauché un sans-papier, sont pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les patrons ne sont pas condamnés. J'ai parlé un jour avec un employé de la préfecture, parce qu'avant j'y allais tout le temps, donc on me connaissait. Et il me disait, de toute façon, on a fait une enquête au niveau de la préfecture, au niveau des patrons du bâtiment, on a laissé tomber l'enquête parce qu'on s'est aperçu que si on attaquait tous les patrons qui ne déclarent pas leurs employés, il y aurait un gros problème dans le bâtiment. Donc, on a laissé tomber.
Les patrons, ils ont besoin de travailleurs, mais pas des travailleurs en situation régulière. Parce que si on est en situation régulière, on ne va pas accepter ces conditions-là. C'est pour ça que nous, on a l'habitude de dire à l'ensemble des travailleuses et travailleurs français ou étrangers, mais en situation régulière, de nous soutenir. Il faut qu'on ait les mêmes droits pour que les SMIC, les salaires puissent augmenter et pour que les conditions de travail puissent s'améliorer. Et tout ça, aujourd'hui, les patrons voyous qui est Chronopost et ses sous-traitants de Richebourg Intérim n'ont jamais donné les papiers nécessaires pour la régularisation, qui est promesse d'embauche qu'on appelle CERFA et attestation de concordance. Pour dire qu'on a travaillé sous alias, mais voilà nos vraies identités. Ils n'ont jamais voulu donner, ils sont restés dans leur hypocrisie. On ne les reconnaît pas, ils n'ont jamais bossé pour nous. On a des preuves. On a des preuves, même des photos des personnes qui sont en train de travailler avec leur gilet. On a des vidéos des personnes en train de travailler dans Chronopost. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Monsieur le préfet, j'espère qu'il m'attend. Alors nous, la lutte, elle est claire. Nous l'avons dit ici. On va la répéter. C'est pour la régularisation des personnes qui ont occupé les piquets de grève devant Chronopost d'Alfortville. Nous étions en grève. Maintenant, nous sommes en lutte. Depuis 36 mois, une lutte pour la régularisation. Et nous avons déposé les dossiers chez vous ici, dans cette préfecture-là. 32 au total.
Notre objectif, c'est la régularisation de tout le monde. Sinon, on ne bouge pas. Et s'ils nous disent méchants avec des méchants, gentils avec des gentils, ça, c'est les mots des ministres de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Ça, c'est ces mots. Nous, on dit qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. L'ensemble des sans-papiers travaillent, cotisent et payent des impôts. Les méchants, c'est les préfectures qui sont inaccessibles. Il faut prendre un rendez-vous pour déposer. Et les rendez-vous, il n'y en a pas. Les liens, les sites, ils ne fonctionnent pas. Et c'est fait exprès. Ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas le moyen de fonctionner un site internet. Ce n'est pas vrai. Ils ont enlevé les moyens humains. Je veux dire, il n'y a plus de personnes derrière les guichets. La clé maintenant, elle est devant les ordinateurs. Et ça ne fonctionne pas. Et même si vous arrivez à déposer, vous n'avez pas d'interlocuteur. Vos dossiers traînent dans la préfecture, vous n'avez pas de réponse, ni acceptation, ni refus. Des fois, vous récupérez à la fin votre titre de séjour déjà périmé. Et vous payez 375 euros pour un titre déjà périmé. Ça, c'est méchant. Nous, on travaille, on cotise, on paye des impôts, on ne demande rien. Les titres de séjour, ça ne permet pas de retirer de l'argent à la banque. Ça permet juste de travailler et de faire reconnaître ses droits, point. Et surtout, ça permet de faire des aléas, aller voir sa famille et retourner. C'est important. Donc, c'est une liberté. Concrètement, nous avons 15 cartes. Concrètement, aujourd'hui, 15 cartes. Parmi les 15, il y a 4 personnes de Grévis Chronopost. Et les autres, c'est des personnes ayant travaillé dans d'autres entreprises. On est tous dans la même situation. Personne n'a à CERFA ni attestation de concordance parmi les 18. Personne n'est là. Mais pourquoi donner aux 4 et pas aux autres 14? Ça, c'est l'arbitrage de la préfecture. Moi, je l'ai, mais si les 14, ils n'ont pas, c'est comme si nous, on ne l'a pas. Parce que ça fait 28 mois, on a démarré tous les grèves ensemble. On dort tous là, on fait des mobilisations ensemble. Et on a démarré avec un objectif, régularisation de l'ensemble des grévistes, sauf s'ils décident de nous évacuer par la force. Parce que la force, c'est ils l'ont. On n'a pas ça.
En régularisant les travailleurs sans papier, c'est aussi régulariser l'activité du travail. Et donc lutter contre le travail illégal. Et donc dire qu'on régularise moins les travailleurs sans papier, ça veut dire qu'on accepte le développement du travail illégal. Enfin, c'est pas en régularisant moins qu'il y aura moins de travailleurs sans papier. Au contraire, on va plutôt précariser les personnes, les mettre dans des situations beaucoup plus compliquées avec leurs employeurs que si on régularise et justement on normalise la relation d'emploi et certains secteurs d'activité d'ailleurs. Il y a cette logique utilitariste et puis il y a cette logique aussi du mérite et de la performance. Ça doit être aussi des gens exceptionnels. Et donc des bons travailleurs. Ben voilà, des bons. les bons. Et les bons, c'est ceux qui montrent qu'ils sont méritants. Et puis on agite un peu cette carotte en disant, bah ouais, c'est possible la régularisation. Donc si tu travailles bien, tu pourras être régularisé. Donc continue de travailler. Il y a de ça. Mais faut pas qu'on te voit trop non plus. Vous travaillez la nuit, vous travaillez le matin tôt et on vous voit pas, quoi.
Historiquement, il y avait des régularisations massives qui se sont faites. La dernière, je crois, en 98. Mais depuis la 2012 et la circulaire Valls, on est passé au cas par cas. Et ça créait de plus en plus divers titres de séjour. Chaque personne, elle va être régularisée par une situation. Maintenant, je crois, on est autour de 50 titres de ce type de titres de séjour. Vie privée, titre de séjour travail, titre de séjour temporaire, titre de séjour pluriannuel. Et ça désolidarise, ça divise beaucoup. Pourquoi ? Parce que chacun va chercher des solutions individuelles, personnelles.
Que vous, vous profitez de nous. Que derrière vous, vous dites que nous, c'est nous les profiteurs. C'est le contre-vérité.